Vous aimez la littérature?
Vous auriez essayé de faire de la littérature. Vous pourrez peut-être m'aider à trouver une solution.
Essayez de cambrioler un peu pour une fois.
Dites-moi, mon petit vieux, pour faire de la littérature, attendez la retraite.
Mon livre parle de masque comme métaphore. Une métaphore n'a pas un...
Quel essai?
Eh bien, pour cette dernière de la saison, j'ai envie de vous parler d'un livre qui a été écrit par une dame qui s'appelle Corinne Peluchon, qui est philosophe et professeure à l'université Paris-Est-Marne-la-Vallée, et qui est l'auteur d'une dizaine d'ouvrages, etc. Et le titre m'a beaucoup plu, parce que je trouvais que c'était intéressant. Le titre du livre dont je vais vous parler aujourd'hui s'appelle « Éthique de la considération ». Elle nous dit d'ailleurs dans la quatrième de couverture que l'éthique de la considération prend sa source dans les morales antiques, mais elle rejette leur essentialisme et s'appuie sur l'humilité et sur la vulnérabilité. La considération est l'attitude globale sur laquelle les vertus se fondent au cours d'un processus d'individuation dont l'auteur décrit les étapes. Je trouve que ce livre est intéressant en dehors d'un penchant qu'elle a de mêler et l'histoire de l'homme et le rapport que l'homme a avec les animaux. Ce n'est pas un ouvrage de philosophie, de zoologie, mais son approche est assez intéressante, je trouve. Je vais vous lire un petit extrait qui va vous faire comprendre quelle est sa démarche par rapport à cette éthique de la considération. Elle dit « La fin des philosophies de l'histoire » qui conférait une épaisseur à l'existence individuelle, a laissé un vide idéologique que rien n'a pu combler. Les actions de nos ancêtres se déroulaient sur deux plans. Elles avaient un sens pour eux, mais elles transcendaient aussi le présent. Dieu ou l'histoire les jugerait. Au contraire, la satisfaction immédiate et le bien-être matériel sont souvent de nos jours les seules aspirations des individus. Cette situation a laissé toute la place au marché et à l'économisme. Les individus n'ont pas d'autre horizon que la consommation et ils perdent peu à peu le sens de ce qui les relie aux autres. Cette dimension purement individuelle de leur existence et le fait que l'argent et la recherche des honneurs sont érigés en souverains bien expliquent en grande partie les frustrations des êtres et l'absence d'harmonie sociale. Le capitalisme s'est ainsi imposé comme le seul système possible à un moment où l'idéal universaliste des Lumières, déjà mis en question par les deux guerres mondiales et par la colonisation, ne pouvait plus être une référence indiscutable. L'humanisme n'était plus seulement synonyme de paix et d'émancipation individuelle, mais aussi d'ethnocentrisme, de spécisme et même de phallogocentrisme. Si l'universalisme n'est pas mort, comme on le sous-entend en même temps dès que l'on parle de vie bonne, pas seulement de justice, et si l'humanisme a encore un avenir, alors il ne peut s'agir que d'un universalisme en contexte et d'un humanisme rénové, ayant pour objectif de réaffirmer la primauté du politique sur l'économie et d'aider les individus à développer les ressources nécessaires pour opérer la transition vers le modèle de développement écologiquement soutenable et plus juste. Pourtant, il y a de nombreux obstacles à cette rénovation. L'une des principales difficultés résulte dans la forme décomplexée du nihilisme qui est propre à notre époque. Le danger n'est pas seulement que les êtres humains soient écrasés sur le plan social et économique, mais que leur misère morale et spirituelle les rende incapables d'échapper à la domination, qu'ils fassent partie de ceux qui exploitent les autres ou de ceux qui sont exploités. Hannah Arendt a beaucoup insisté sur la dimension à la fois sociale, politique et anthropologique de la désolation, qui ne désigne pas la solitude, mais le fait que l'individu ne se perçoit que comme une force de production et de consommation et qu'il a perdu tout ce qui le faisait participer au monde commun. La désolation touche les démocraties de masse. Les individus la subissant sont particulièrement perméables aux politiques autoritaires qui dégradent les êtres humains et détruisent le monde commun. Toutefois, la désubjectivation dont beaucoup de nos contemporains font l'expérience, à ce site particulier, qu'elle s'accompagne de la volonté de s'imposer par tous les moyens et de l'obsession du contrôle. Comme le sujet de la désolation, l'individu n'éprouve que la dimension individuelle de son existence, mais son comportement traduit la peur de l'altération du corps, la difficulté à assumer sa propre vulnérabilité et celle d'autrui, la crainte et la négation de l'altérité et finalement la tentation de contrôler le patrimoine génétique de l'humanité et des autres vivants. Cette volonté de maîtrise et cette peur de l'altérité et du corps caractérisent le rapport à soi, aux autres et à la technologie de beaucoup d'êtres humains aujourd'hui.